Bonjour. Donc, Cécile et moi allons faire le point sur la part croissante et les particularités des allonisations anti-KEL1 et anti-RH4. Donc, depuis l'introduction de l'immunoprophylaxie par la globuline anti-RH1 dans les années 70, il y a eu une nette diminution de l'incidence des allonisations anti-RH1. Donc, cette étude de Moïse de 2008 a comparé deux séries de patientes, donc une série de femmes américaines enceintes en 1969, donc 17 000 patientes, et il a comparé à une série de 37 000 patientes en âge de procréer en 1996. Et donc, on peut voir que l'incidence de l'allomisation anti-grandée a largement diminué depuis l'introduction de la prophylaxie par le Rofilac, et avec une incidence en 1969 qui était de 16 pour 1000 femmes, pour 1000 grossesses, et en 1996 de 2,7 pour 1000. En ce qui concerne l'allonisation anti-KEL, on constate que l'incidence est passée de 1,6 à 3,2 pour 1000 grossesses, et les auteurs notent que parmi ces patientes en 1996, deux tiers avaient eu des transfusions, avaient des allomisations post-transfusionnelles. Ensuite, on peut également voir par ordre de fréquence, donc qu'après les allomisations anti-grand D et KEL, suivent les allomisations anti-grand E, anti-petit C, anti-2FI, anti-C, anti-MNS, anti-KID, anti-lutéran et anti-petit E. Quand on reprend les données d'Yves Brossard de 2002, qui reprennent les données du CNRHP, on voit que l'incidence donc, des différentes allomisations, donc là c'est les cas symptomatiques, on voit du coup que les incidences sont plus faibles que dans l'étude de Moïse, on voit que les cas symptomatiques donc, touchaient 0,8 grossesse sur 1000 pour les allomisations anti-RH1, 0,1 pour 1000 pour les allomisations anti-RH4 et 0,05 pour 1000 pour les allomisations anti-KEL1. Donc sur des données plus récentes du CNRHP, donc en reprenant sur 2003-2006 les grossesses donc avec une anémie fœtale sévère, donc on voit que les allomisations anti-RH1 étaient prépondérantes avec 85%, les anti-KEL 13% et les anti-RH4 représentaient 2% des patientes qui avaient eu au moins une transfusion in utero pendant leur grossesse. Ensuite, les données issues du mémoire de Pauline Thomas sur des allominisations reprises entre 2006 et 2012, donc des patientes qui ont eu au moins deux transfusions in utero pendant leur grossesse. Donc on peut voir que la part des allominisations anti-KEL qui ont donné des anémies sévères est plus importante et elle représente quasiment un quart des patientes. Et les allomisations anti-RH1 sont à 64% des patientes qui avaient eu des allomisations avec des anémies sévères nécessitant au moins deux transfusions in utero. Ce qui est très intéressant donc, dans ce tableau, on remarque que l'âge gestationnel à la première transfusion est plus précoce dans les allomisations anti-KEL et ce de manière significative. Et donc là, on voit les deux extrêmes d'âge gestationnel pour la première transfusion, entre 17 et 32 semaines d'aménorrhée pour les allomisations anti-RH1 et c'est un petit peu plus précoce pour les allomisations anti-KEL. Les données étaient comparables en ce qui concernait le nombre moyen de transfusion in utero, l'hémoglobine lors de la première transfusion in utero et l'âge gestationnel entre les allomisations anti-KEL et anti-RH1. Donc, ces données montrent que l'allomisation anti-KEL n'a pas du tout le même mécanisme que l'allomisation anti-RH1. Elle donne des anémies fœtales sévères de manière plus précoce et ça avait déjà été remarqué donc, dans les années 90 car les fœtus qui avaient des anémies sévères suite à des allomisations anti-KEL1 avaient un taux de réticulocytes et d'érythroblastes qui était peu élevé comparé aux allomisations anti-RH1. Et donc, pareil, dans les allomisations anti-KEL, on remarquait que le taux de bilirubine n'était pas important alors qu'il y avait des anémies sévères. Donc, ces données suggéraient qu'il y avait un mécanisme avec une atteinte au niveau central plus qu'une hémolyse périphérique. Donc Weiner a démontré, donc en 96, il a regardé la corrélation entre l'anémie fœtale et le taux de réticulocyte chez les fœtus qui avaient une alloimmunisation anti-Kell, et il les a comparés au rhésus, au RH1. Et donc on voit que quand il y a des anémies sévères avec des hématocrites qui sont basses dans les alloimmunisations anti-RH1, il y a un taux de réticulocyte qui est élevé. Donc le taux de réticulocyte est inversement proportionnel au taux d'hémoglobine. Il avait remarqué la même chose pour la bilirubine, et quand il compare le taux d'hématocrite et les réticulocytes dans l'alloimmunisation anti-Kell, il n'y a pas de relation entre les deux. Et donc, ces données donc suggéraient qu'il y ait une atteinte au niveau des progéniteurs érythroïdes, ce qui a été démontré dans l'étude de Vaughan en 1998. En fait, il a pris des sangs de cordon de nouveau-nés à terme, il a isolé les progéniteurs érythroïdes et il les a mis en contact avec des anticorps monoclonaux anti-Kell. Et donc, il a montré que plus il les mettait en contact avec une concentration d'anticorps monoclonaux anti-Kell forte, plus la croissance des progéniteurs érythroïdes était diminuée si c'était des fœtus, enfin des nouveau-nés, qui étaient Kell positifs. Alors que quand on mettait ces anticorps monoclonaux en contact avec des fœtus Kell négatifs, il n'y avait pas de suppression de la croissance des progéniteurs érythroïdes. Il a fait la même étude en mettant du sérum de patientes qui avaient des alloimmunisations anti-Kell et il a remarqué les mêmes constatations. Donc la conclusion, c'est que les anticorps anti-Kell inhibent spécifiquement la croissance des progéniteurs érythroïdes.
Alors, après les aspects donc, épidémiologiques et physiopathologiques qu'Emine vous a présentés, je vais vous parler des particularités du suivi biologique des immunisations anti-Kell et anti-petit C. Donc, pour l'immunisation anti-Kell, le schéma de surveillance suit le schéma classique de surveillance de toutes les immunisations anti-érythrocytaires chez la femme enceinte, à savoir une première étape de dépistage par une RAI puis une identification, donc avec mise en évidence de l'anti-Kell, anticorps à risque obstétrical, d'où une obligation de quantification de cet anticorps par une technique de titrage pour l'anti-Kell. Donc là encore, en fonction du résultat du titrage, une simple surveillance biologique va être mise en place si l'anticorps titre inférieur à 32. Si l'anticorps a un titre plus élevé, qui dépasse le seuil critique à partir duquel il y a un risque d'anémie fœtale sévère, une surveillance clinique avec mesure de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne va être associée à la surveillance biologique, qui consiste en un titrage tous les mois, dès 16 semaines d'aménorrhée, dans le cas de l'immunisation anti-Kell. On va aussi chercher, on l'a vu, à apprécier le risque d'incompatibilité fœto-maternelle en réalisant le phénotype du père ou le génotypage fœtal invasif ou non invasif. Et en cas de situation où il y a un risque d'incompatibilité, la surveillance va se poursuivre jusqu'à à l'accouchement. Et à l'accouchement, là encore, la surveillance biologique va continuer avec un bilan d'incompatibilité à la naissance qui va permettre d'adapter la prise en charge néonatale. Donc, au niveau de chacune de ces trois étapes de dépistage, de suivi et de bilan biologique à la naissance, il existe des particularités pour l'immunisation anti-Kell par rapport aux autres immunisations. Donc, au niveau de l'étape de dépistage, il faut rappeler que les recommandations de l'HAS de 2007 demandent qu'une première RAI soit réalisée au cours de la première consultation, si possible avant 10 semaines d'aménorrhée. Alors, le problème, c'est que souvent cette consultation se fait chez le médecin généraliste, donc la prescription de la RAI est parfois oubliée au milieu du nombre d'examens à prescrire. Et parfois, cette prescription est bien faite, mais la patiente va se faire prélever dans un laboratoire qui ne réalise que les recherches d'agglutinine irrégulière et n'identifie pas forcément l'anticorps ensuite. Donc, il peut y avoir un oubli de transmission du prélèvement pour identification, ou en cas de quantité insuffisante de prélèvement, le prélèvement peut ne pas être transmis. Donc il faut bien que les laboratoires aient conscience qu'une RAI positive chez une femme enceinte, c'est une urgence, et qu'en cas de prélèvement insuffisant, il faut vraiment redemander un prélèvement rapidement. Parfois, l'anticorps est bien identifié, l'anti-Kell, mais le titrage n'est pas réalisé parce qu'il n'y a pas forcément notion de grossesse. Et puis parfois, également, même si le titrage est réalisé, la dangerosité obstétricale de l'anticorps n'est pas bien prise en compte par le clinicien qui connaît bien les problèmes liés aux immunisations anti-D, mais parfois peu les immunisations anti-Kell et les immunisations anti-petit C. Donc c'est un problème qui est général finalement pour toutes les immunisations chez la femme enceinte, mais qui est particulièrement important dans le cadre des immunisations anti-quelles. Pourquoi ? Parce que l'immunisation anti-quelles peut être d'emblée très élevée, et du fait du mécanisme central, une anémie fœtale sévère peut survenir très précocement, dès les termes de 16-17 semaines d'aménorrhée. Donc si cette RAI et ce titrage sont réalisés après ce terme, parfois c'est trop tard, et c'est vrai qu'on a plusieurs cas dans notre expérience au CNRHP où nous alertons le clinicien sur une immunisation anti-quelle sévère sur des prélèvements qui ont été réalisés à des termes à 18 ou 19 semaines d'aménorrhée et où malheureusement on constate déjà un fœtus très atteint, voire décédé. Au niveau du suivi biologique, donc le suivi se fait uniquement par titrage. Il n'y a pas de dosage pondéral pour cet anticorps. C'est un anti-quel, en fait, agglutine. L'hématlutination en flux continu marche très mal. Donc, cette technique n'est pas utilisable. Donc, de plus, au niveau du titrage, les agglutinats sont parfois très fins. Et c'est vrai qu'un laboratoire peu expérimenté peut facilement sous-estimer le titrage. Donc, sous-estimer aussi les risques d'anémie fœtale chez le fœtus. Les réactivations de cette immunisation anti-quel sont rares. Mais la stabilité du titre ne préjuge en rien du degré d'atteinte fœtale. En effet, ce n'est pas parce que le titre reste stable à 32 tout au long de la grossesse que le processus d'anémie n'est pas en train de se développer chez le fœtus. Et donc, c'est vrai que certains cliniciens n'ont pas conscience forcément qu'un titre stable, ils peuvent être assurés par un titre stable. Et en fait, non, il faut vraiment faire les surveillances échographiques par vélocimétrie. C'est vraiment très important puisque l'anémie peut survenir à n'importe quel moment. Ensuite, donc à la naissance, on va bien sûr, comme dans tous les cas d'immunisation anti-érythrocytaire chez la femme enceinte, chercher à affirmer la compatibilité fœto-maternelle en réalisant un groupe ABO et un phénotype RHQL chez le nouveau-né, sauf bien sûr si l'enfant a bénéficié d'une transfusion in utero. On va aussi réaliser le test direct à l'antiglobuline ou test de Coombs direct afin de mettre en évidence des anticorps maternels fixés in vivo sur les hématies du nouveau-né. Et puis on va faire des tests d'élution et chercher à identifier la spécificité de l'anticorps fixé sur les hématies du nouveau-né. Donc là, au niveau de l'immunisation anti-quelle, il y a une particularité, c'est que parfois dans les immunisations sévères, on peut observer le phénomène de phénotype quelle bloqué. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'anticorps maternels fixés sur les hématies du nouveau-né que le réactif anti-quelle qui est utilisé pour réaliser le phénotype n'arrive pas à se fixer sur les hématies et le nouveau-né apparaît faussement de phénotype quelle négatif. Cependant, la présence d'un test de Coombs direct fortement positif avec une élution positive à anti-quelle permet d'affirmer la compatibilité fœto-maternelle. Pour la surveillance de l'ictère et de l'anémie, donc comme pareil pour tout, dans toute situation où la compatibilité fœto-maternelle est démontrée, un dosage de bilirubine va être réalisé. Donc on peut réaliser ce dosage sur le sang de cordon. Ça permet d'avoir une estimation de l'intensité de la biligénèse et donc du risque d'ictère sévère. Et puis des dosages rapprochés de différentes formes de bilirubine vont être effectués également suite à l'accouchement. Donc les bilirubines totales et directes, et puis au CNRHP, nous dosons deux types de bilirubines un peu particulières, qui sont la BNL pour la bilirubine non liée, ça correspond en fait à la bilirubine libre non liée à l'albumine, et puis la BIE pour bilirubine intra-érythrocytaire, c'est un terme impropre, ça correspond en fait à la bilirubine qui s'est fixée sur les phospholipides au niveau de la membrane du globule rouge. Donc ces deux formes de bilirubine étant des formes neurotoxiques, et leur dosage est corrélé au risque d'ictère nucléaire. On réalisera également des numérations formules sanguines avec dosage du taux d'hémoglobine et du taux de réticulocyte de manière rapprochée dans les premières semaines, puis plus espacée jusqu'à 2 mois postnatal. Donc là, les particularités de l'immunisation anti-quelle, c'est qu'on l'a déjà vu, on aura souvent des formes beaucoup plus anémiques qu'hyperbilirubinémiques du fait du mécanisme d'action d'inhibition de l'érythropoïèse. Dans les immunisations plus modérées, il faut aussi être vigilant puisqu'on peut avoir un tableau faussement rassurant à l'accouchement et en fait une anémie qui peut parfois être profonde, qui peut se développer à plus de 3 semaines de vie. Alors maintenant, je vais vous parler du suivi biologique des immunisations anti-petit C ou anti-RH4. Donc, selon le même schéma de surveillance biologique, donc on va mettre en évidence l'anticorps. Le quantifier cette fois par technique de titrage et de dosage pondéral au CNRHP. Donc là encore, selon la concentration en anticorps trouvée, si nous sommes inférieurs au seuil critique qui est de 500 unités CHP, une simple surveillance biologique va être mise en place avec un dosage de l'anticorps tous les mois ou tous les 15 jours selon le terme et la concentration. Donc tous les 15 jours, donc de manière plus rapprochée que l'antiquelle, hein, puisque la réactivation de l'anti-petit C est plus fréquente au cours des grossesses. Et puis, si la concentration de l'anticorps dépasse le seuil critique de 500 unités CHP, on va associer une surveillance échographique avec des mesures de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne. Là encore, on va chercher à apprécier donc, le risque d'incompatibilité fœtomaternelle en réalisant le phénotype chez le père et puis le génotypage petit c invasif ou bientôt non invasif. Et là encore, à la naissance, on réalisera un bilan biologique. Donc pareil, pour l'immunisation en type TC, il y a des particularités au niveau de chacune de ces étapes. Donc au niveau de l'étape de dépistage, c'est vrai que le dépistage de ces immunisations n'est pas optimal. Pourquoi ? Parce qu'il concerne des patientes de phénotype RHD positive. Donc dans la plupart des cas, ces patientes sont le phénotype R1-R1, celui qui vous était présenté. Et le calendrier des RAI est beaucoup moins drastique que pour les patientes de phénotype RHD négatif. En effet, dans les recommandations HAS, pour la femme rhésus D négatif, il y a 3 RAI d'intérêt fœtal qui doivent être réalisées. Donc la première au premier trimestre, puis une au sixième mois et une autre au huitième mois. Pour les patientes rhésus D positifs, il n'y a qu'une seule RAI obligatoire d'intérêt fœtal, c'est la RAI du premier trimestre. La RAI suivante correspond à la RAI de la consultation anesthésiste qui souvent a lieu au huitième, voire au neuvième mois de grossesse. Donc là encore, comme pour l'immunisation anti-quelle, c'est vraiment très important que la RAI du premier trimestre soit réalisée précocement et qu'elle permette donc de dépister la présence de cet anticorps. Mais il y a un problème supplémentaire avec les immunisations en type TC. Donc je vais vous expliquer, mais pour cela, je voulais d'abord vous faire un petit rappel sur la RAI, ou recherche d'anticorps anti-érythrocytaires. Donc la technique qui est préconisée dans les tests, c'est le test indirect à l'antiglobuline. C'est-à-dire qu'on va mettre en évidence l'anticorps anti-érythrocytaire dans le sérum de la femme enceinte en mettant ce sérum en présence d'hématies test de phénotype connu. Et en présence d'un anticorps érythrocytaire qui se fixe sur sa cible, cette fixation, cette reconnaissance antigène-anticorps va être mise en évidence par l'ajout d'une antiglobuline qui va permettre de créer un réseau et de faire en sorte qu'il y ait une agglutination visible qui puisse permettre de dire que la RAI est positive. Donc, c'est la technique préconisée. Il y a une seconde technique qui existe, qui utilise donc des enzymes, qui permet en fait d'augmenter la sensibilité du test pour certains anticorps, notamment les anticorps dans le système RH. Le problème de ces techniques enzymatiques, c'est qu'elles induisent aussi des réactions non spécifiques qui peuvent être source de difficultés d'interprétation et qui sont potentiellement gênantes, surtout dans un contexte transfusionnel urgent. Donc ces techniques enzymatiques, du coup, ont été rendues non obligatoires par le dernier arrêté d'immunohémato de 2002. Alors, c'est un problème pour les immunisations type TC, puisque parfois, même si la RAI du premier trimestre est faite correctement, dans les temps, on peut passer à côté d'immunisations type TC très faibles quand les laboratoires qui réalisent la RAI ne travaillent qu'en test indirect à l'antiglobuline. Alors, du fait que ces immunisations peuvent se réactiver très fortement dès le deuxième trimestre de la grossesse et qu'il n'y a pas de RAI intermédiaire entre celle du premier trimestre et celle qui est réalisée au moment de la consultation anesthésiste, parfois ces immunisations du coup sont dépistées également très tardivement, donc soit à la RAI, soit on constate à l'échographie des anomalies. Et là encore, on a régulièrement, malheureusement, au CNRHP, des cas de découverte d'extraction en urgence d'enfants ou même de découverte de mort fœtale in utero à cause de cette réactivation de l'immunisation qui n'a pas été vue. Au niveau du suivi biologique des immunisations en type TC, donc là nous disposons du dosage pondéral en plus du titrage, c'est un vrai plus, parce que déjà nous avons une mesure continue plus précise de la concentration totale en anticorps. Et puis on constate pour ces immunisations qu'on peut avoir un titre en Kumsa direct qui est souvent faible, ce sont des anticorps peu affins en général, même en présence d'une concentration élevée en anticorps. Donc il est vrai que si on se base sur le titre, il est communément admis qu'un titre à partir duquel il y a un risque de retentissement fœtal est un titre de 4, mais lors des réactivations d'immunisation, notre expérience montre que le dosage pondéral augmente souvent bien avant le titre. Donc le fait d'avoir basé nos seuils critiques sur le dosage pondéral permet vraiment de mettre en place une surveillance clinique anticipée et d'éviter une prise en charge trop tardive des cas d'anémie fœtale sévère. Là encore, le bilan biologique chez le nouveau-né, selon le même principe, le groupe, le phénotype RHQL, le test de Coombs direct, l'élution, et puis les dosages de bilirubine et énumération formule sanguine. Et là, pour l'immunisation en type TC, les particularités sont liées toujours au problème que l'immunisation est parfois découverte trop tardivement. Et donc, il peut arriver que des enfants, soient même découvertes au moment de la naissance, et que des enfants, du coup, naissent en ayant une anémie sévère ou qui développent une maladie hémolytique sévère, que ces enfants naissent dans des maternités pas adaptées pour la prise en charge de ces nouveau-nés, qu'ils soient transférés dans des maternités de plus grosse taille, sans malheureusement que les données immunométalliques de la maman soient également transférées. Et il peut y avoir des cas justement où on transfuse ces enfants en urgence vitale immédiate, donc avec des CGR de O négatif, donc qui sont tous Rh petit c positif, donc incompatibles, d'où une efficacité transfusionnelle, voire risque d'effet indésirable receveur grave chez le nouveau-né. Et puis, comme pour les immunisations anti-KEL, dans les formes plus modérées, on peut aussi assister à des tableaux faussement rassurants, avec des anémies parfois retardées, qui peuvent être importantes à plus de 3 semaines de vie.
Donc, comme on l'a vu, dès qu'on atteint un taux d'anticorps à un seuil critique à risque d'anémie fœtale, il faut réaliser une surveillance échographique par vélocité vélocitométrie de l'artère cérébrale moyenne, donc à partir de 16 semaines d'aménorrhée et jusqu'à l'accouchement. Donc, quand on reprend les données de Pauline Thomas et de Bruno Carbone sur les patientes qui ont eu des allumisations anti-RH1 et anti-KEL avec des anémies sévères nécessitant plus de 2 transfusions in utero, donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'âge gestationnel de la première transfusion in utero est significativement plus précoce dans les allumisations anti-KEL que dans les allumisations anti-RH1, avec un taux moyen d'hémoglobine qui est similaire. Et on peut aussi voir que le taux de chute de l'hémoglobine est plus élevé entre les 2 premières transfusions dans les allumisations anti-RH1 que dans les allumisations anti-KEL. Donc l'anémie dans les allumisations anti-KEL est plus précoce et moins rapide. Pour caricaturer, je vous présente 2 cas de patientes qui avaient des allumisations anti-KEL sévères avec un titrage au 256e. La première patiente était suivie en Bretagne avec des Doppler de l'artère cérébrale moyenne hebdomadaire et donc elle nous a été adressée à 20 semaines d'aménorrhée lorsque les vitesses étaient supérieures à 1,5 multiples de la médiane. Elle a pu bénéficier d'une transfusion in utero. Une première transfusion in utero qui a permis de remonter l'hémoglobine fœtale de 2,5 g à 11,4 g. Et là, elle en est à sa 5e transfusion in utero en ce moment. A contrario, cette deuxième patiente, elle, avait une allumisation anti-KEL sévère et elle n'avait pas de suivi par méconnaissance de son obstétricien. Pourtant, la patiente savait qu'il fallait faire une surveillance par échographie, mais son obstétricien lui a dit « Non, on ne peut rien faire de toute façon avant 22 semaines ». Et donc, lors de l'échographie de dépistage à 22 semaines, on a découvert une anasarque fœtoplacentaire. La patiente nous a été adressée. Donc, lorsqu'on lui a fait l'écho, on voit des vitesses très élevées à 2,5 multiples de la médiane. Et tous les signes d'anasarque, donc l'œdème sous-cutané, une ascite importante, un épanchement pleural bilatéral et un épanchement péricardique. Donc, on a vu cette patiente en fin d'après-midi, le temps de faire le bilan pré-transfusionnel et de programmer la transfusion in utero pour le lendemain matin. Et donc, il y avait une activité cardiaque à 7h du matin, et quand on s'est installé pour faire le geste de transfusion in utero, on a constaté une mort fœtale in utero. Donc, la patiente ne s'est toujours pas remise de cet épisode. Ensuite, donc, on voit que les allumisations anti-KEL peuvent être très précoces, avec des anémies sévères très précoces. Pour les allumisations anti-RH4, les données anténatales sont à peu près comparables aux allumisations anti-RH1, mais avec des anémies qui surviennent le plus souvent quand même au troisième trimestre. Et comme donc le mécanisme, c'est une hémolyse périphérique, les fœtus, pour régénérer, ont une hépatosplénomégalie, et donc ça se voit très bien à l'échographie aussi. Donc ça peut être un signe qui peut nous aider lorsque les vitesses sont proches d'1,5 multiple de la médiane pour décider de faire une transfusion in utero. Donc, les allumisations anti-RH4 sont moins fréquentes. Donc, là, j'ai retrouvé la plus grande étude qui comparait les données des patientes qui avaient des allumisations anti-RH4. Elles étaient comparées aux allumisations anti-RH1. Donc, c'est une étude réalisée aux Pays-Bas entre 2000 et 2011. Et donc, qui comparait des patientes donc, qui accouchaient après 35 semaines d'aménorrhée et donc qui présentaient des allumisations avec un seul anticorps, soit anti-RH4, soit anti-RH1. Et donc, on peut voir que les données sont comparables dans les deux groupes, avec un nombre de transfusions in utero qui est comparable, mais quand même des tendances à un âge gestationnel à la première transfusion qui est un peu plus bas dans les allumisations anti-RH1, que dans les immunisations anti-RH4, donc 29 semaines d'aménorrhée versus 33 semaines d'aménorrhée, mais ce n'était pas significatif. En revanche, le taux d'hémoglobine à la première transfusion était significativement plus bas dans les immunisations anti-RH1 par rapport aux immunisations anti-RH4. Lorsqu'on comparait leurs données aussi par la suite, donc d'hémoglobine à la naissance, de taux de bilirubine, le recours à une photothérapie et le nombre de jours de photothérapie, les données étaient comparables entre les deux groupes. La seule différence était le taux de réticulocytes qui était plus élevé dans les nouveau-nés qui avaient une allomisation, enfin qui étaient issus d'une allomisation anti-RH4. Et les auteurs supposaient que, comme il y a eu plus de transfusions dans le groupe des allomisations anti-RH1, du coup, ça avait inhibé l'érythropoïèse de ces fœtus. Ensuite, quand on regarde les données sur le recours à des transfusions itératives après post-natal, on voit que les données sont comparables. Il y a juste plus de transfusions post-natales chez les nouveau-nés issus d'allomisations anti-RH1 qui avaient déjà eu une transfusion in utero. C'est la seule différence significative.
Alors pour conclure, donc les particularités des immunisations anti-quel et anti-petit C. Donc au niveau du dépistage de ces immunisations, donc pour l'immunisation anti-quel, l'anticorps est souvent présent dès le premier trimestre. Donc l'importance vraiment de cette RAI du premier trimestre qui doit être réalisée pas trop tardivement et correctement jusqu'au bout. Le titre d'anticorps peut être parfois d'emblée très élevé. Donc c'est vrai que c'est fréquent d'avoir des patientes deuxième part qui effectivement débutent une nouvelle leur deuxième grossesse avec des titres très élevés suite à l'immunisation qui s'est développée au cours de la première grossesse. Pour les immunisations anti-petit C, l'anticorps est aussi présent dès le premier trimestre, mais parfois en faible quantité. Donc c'est tout l'intérêt des techniques enzymatiques pour réaliser la RAI du premier trimestre. Au niveau du suivi biologique, donc le suivi des immunisations anti-quel va se faire uniquement par titrage. Donc attention au piège des agglutinations parfois faibles. Il y a une grande variabilité du titrage interlaboratoire selon les techniques utilisées et selon les méthodes de lecture des agglutinats. Les réactivations sont rares. En revanche, pour les immunisations anti-petit C, les réactivations sont fréquentes. Le titre est souvent faible, il augmente tardivement en cas de réactivation. C'est tout l'intérêt du dosage pondéral donc pour pouvoir mettre en place une surveillance clinique anticipée.
Et donc, comme on l'a vu, les allomisations anti-quel doivent avoir un suivi échographique très précoce, même si le génotypage quel n'a pas encore été rendu et qu'il faut faire des contrôles, même si on ne sait pas encore si le fœtus est quel plus et qu'il y a une incompatibilité fœto-maternelle, il faut réaliser des échographies avec Doppler de l'artère cérébrale moyenne dès 16 semaines d'aménorrhée et de manière hebdomadaire, car les anémies sont beaucoup plus précoces et plus sévères dans les allomisations anti-quel. Pour les allomisations anti-petit C, donc on a vu que c'est comparable aux allomisations anti-D, mais avec une apparition de l'anémie qui a une tendance à être un peu plus tardive au troisième trimestre. Et donc, pour les nouveau-nés, l'allomisation anti-quel donne des anémies plus sévères plus que des hémolyses. Et l'allomisation anti-petit C, donc, ça donne une forme hémolytique post-natale qui peut aussi être sévère.
Merci pour votre attention.